Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l'actualité qui a marqué cette année. Aujourd'hui, on parle sport. On ne va pas pouvoir aborder toutes les disciplines, évidemment. On sort de la Coupe du Monde, on a donc fait l'impasse sur le football. Par contre, on va parler cyclisme et athlétisme. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. 2022, un millésime sportif dont la Belgique se souviendra longtemps, pas pour la performance décevante des Diables Rouges au Qatar, mais plutôt pour l'avènement ou la confirmation d'immenses champions aux Jeux Olympiques d'hiver, aux Mondiaux d'athlétisme, au Tour d'Espagne ou aux Championnats du monde de cyclisme. Le drapeau belge a flotté. Le Soir vous en a parlé, voici les titres de l'année. 21 février, Bart Swings, le destin en or d'un surdoué de la glisse. 25 avril, le jour de gloire de Remco Evenepoel est arrivé. 20 juillet, la reine Nafi. 19 août, Thiam, l'imbattable. 12 septembre, Remco, roi d'Espagne. 26 septembre, Remco le magnifique. Et pour en parler avec nous, Philippe Van de Weyer, spécialiste athlétisme et olympisme, et Stéphane Thirion, notre expert vélo.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Bonjour Pierre.
On va commencer avec une question facile pour tous les deux. C'est qui l'athlète, le sportif, la sportive de l'année pour vous?
Évidemment, je vais être très subjectif par rapport à la discipline que je cours, mais c'est Remco Evenepoel sans discussion.
Philippe.
Je vais aussi être très subjectif. Pour moi, c'est Nafi Thiam, côté féminin et côté masculin, même si je suis épaté par la saison de Remco Evenepoel. Je crois qu'on a un peu tendance à oublier le titre olympique de Bart Swings et que c'est tellement rare qu'il mérite aussi pour moi d'être considéré comme l'athlète de l'année.
Stéphane, d'abord, 2022, c'est la plus belle année du cyclisme belge depuis 10 ans, 15 ans?
Je dirais depuis l'année Philippe Gilbert 2011, parce que cette année-là, outre ses succès à lui, il y a eu d'autres victoires dans les classiques. Mais c'est la plus belle depuis très longtemps, je trouve, parce que nous avons, au milieu de tout ça, une victoire dans un grand tour, qui ne nous était plus arrivé depuis 44 ans. Et bon, ça, dans notre cyclisme, où on sait tout faire, sprinter, être dans les labourés, faire de la piste, faire du VTT, gagner des classiques, ça manquait quand même à notre, pas à notre palmarès, mais ça manquait à nos habitudes. Nous les avions perdus, nous n'avions plus de coureurs de classement. Nous en avons enfin retrouvé un et peut-être d'autres. Donc, de ce côté-là, c'était une année d'excellence, traduite par la place de numéro 1 mondial de la Belgique pour la quatrième année d'affilée, traduite par la place de numéro 1 mondial aussi en termes d'équipe par Quick-Step.
Ça vous a étonné, une année pareille? J'ai l'impression que ça faisait plusieurs années qu'on disait, il y a effectivement, il y a Remco, il y a Van Aert, il y a des coureurs qui montent. On sentait venir cette année belge du cyclisme sans qu'elle arrive vraiment. Pour le coup, on ne peut pas vraiment être étonné.
On n'est pas étonné parce que l'année d'avant, c'était déjà une année belge. Comment vais-je dire, avec les champions qu'on a pour l'instant, le contraire aurait été décevant. Je vais même être sévère, par exemple, avec Wout Van Aert, qui a toutes les qualités pour gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui ne l'a pas fait. On verra peut-être plus tard sur ce qu'il a fait au Tour de France, bien sûr, mais on s'y attendait. Par rapport à Remco Evenepoel, j'étais plus surpris par la dimension qu'il a acquise depuis sa victoire à Liège-Bastogne-Liège, parce qu'après, ça n'était que de l'excellence, et surtout par sa capacité à résister sur 3 semaines, parce que ça, c'était les gros points d'interrogation qui jalonnaient notre parcours. On se demandait si, oui ou non, il allait pouvoir tenir sur 3 semaines. Je me souviens que dans les journaux spécialisés, comme l'Équipe ou la Gazzetta dello Sport, il n'avait même pas une étoile au départ de la Vuelta. Je pense que là, il a répondu en mettant les points et pas que les points sur la table.
Philippe, même genre de question par rapport à Nafi Thiam. On peut encore être étonné, une telle championne qui a tout gagné, on doit encore s'étonner quand c'est elle qui termine en haut dans le classement?
Je crois qu'on doit s'étonner plus que jamais parce que il faut se souvenir qu'elle était sortie quand même de l'année 2021 et son titre olympique à Tokyo tout à fait essorée mentalement. Je crois que ça avait été très dur pour elle avec le Covid pendant 1 an et demi. La pression qu'il y avait sur ses épaules. Elle a aussi été un peu blessée au début de l'année 2022, des problèmes au dos notamment, qui l'ont empêchée notamment de participer au championnat d'Europe en salle en mars. Et puis elle nous a sorti un été absolument incroyable avec les circonstances faisaient que cette année-ci, il y avait sur un mois de temps et des championnats du monde et des championnats d'Europe. Et elle a réussi à s'imposer dans les deux compétitions. Il faut se rendre compte de ce que c'est d'abord, un, de récupérer d'un heptathlon.
Déjà d'en gagner un, et puis de récupérer, et puis d'en gagner un deuxième.
Absolument. Et il faut dire que son heptathlon, d'abord au championnat du monde, le premier des deux, elle a été magistrale. Elle a réussi le deuxième meilleur total de sa carrière, après avoir quand même été poussée dans ce retranchement par la néerlandaise Vetter. Et puis au championnat d'Europe, où on a vu clairement que la plupart des filles étaient en dedans. Et fatiguée de la saison. Elle a contrôlé magistralement les deux jours de compétition pour aller remporter son deuxième titre européen, après son deuxième titre mondial, après son deuxième titre olympique.
Outre Nafitiam, il ne faut pas oublier non plus la belle année du relais masculin, les Belgian Tornadoes. Le succès de Nafi ne doit pas éclipser celui des autres.
Absolument, c'est aussi pour les Tornadoes la meilleure année de leur carrière. Ils ont participé aussi à trois championnats, puisqu'eux ont fait l'indoor, où ils ont gagné le titre mondial en salle à Belgrade en mars, et puis durant l'été, donc ils ont terminé troisième au championnat du monde à Eugene et deuxième au championnat d'Europe à Munich. Ça fait trois médailles sur trois compétitions. C'est absolument incroyable, d'autant que on sait que les frères Borlée, les jumeaux, commencent à faire leur âge, ont des pépins physiques plus en plus fréquents. Jonathan n'était pas présent ni à Belgrade ni à Eugene. Kevin s'est blessé en demi-finale du 400 individuel au championnat d'Europe et n'était sans doute pas en pleine possession de ses moyens en finale, mais il continue à rester. C'est assez incroyable de se dire que depuis 2010, le relais 4x400 mètres homme belge a disputé 30 finales et décroché 16 médailles. C'est absolument fabuleux.
Stéphane, on a beaucoup parlé de Remco Evenepoel, évidemment, cette année. Pourtant, l'année belge en cyclisme, elle a surtout commencé à Wout van Aert, qui avait posé les jalons de cette saison exceptionnelle.
Oui, mais ça, ce n'est pas une surprise. Je veux dire, Wout van Aert, c'est du sur-mesure par rapport à tout ce qu'il sait faire, par rapport au fait qu'il fait aussi dispute, et en ce moment, d'ailleurs, la saison de cyclocross, donc son premier objectif 2023, ne sera pas sur la route, mais au championnat du monde, dans le terrain de Mathieu Van Der Poel, aux Pays-Bas. Donc oui, c'est sûr que Van Aert a fait des émules par rapport à ses jeunes compatriotes, mais ce n'est pas lui non plus le fil conducteur de la saison belge. Je trouve que cette année-ci, j'en reviens à Remco Evenepoel, ça a été lui, car lui a pu à la fois exposer son talent sur une classique qui est peut-être la plus difficile du calendrier, qui est Liège-Bastogne-Liège. Ensuite, sur le côté, tranquillement, il est champion de Belgique du chrono, dans une discipline où les Belges sont de plus en plus présents, parce que nous avons on vient de citer Van Aert, il aurait pu aussi être champion de Belgique. Et puis derrière, surtout, ce tour d'Espagne, il a accompli avec beaucoup d'intelligence de bout en bout, et la cerise sur le gâteau, le titre de champion du monde, conquis avec la manière et laquelle, en partant loin de l'arrivée, ce qui est très très rare dans une course arc-en-ciel. Donc c'est très complet comme parcours. C'est quelque chose dont ne peut pas encore se revendiquer Wout van Aert, qui est plus un coureur d'à-coup, d'énormes panaches. En cela, il se ressemble. Hein, ce qu'il a fait sur le Tour de France est exceptionnel pour lui, mais elle est aussi, surtout pour son équipier danois Jonas Vingegaard, qui gagne le Tour.
Il faut aussi saluer les performances d'Arnaud Delis, le sprinter de chez Lotto. On connaissait Wout van Aert, on connaissait Remco Evenepoel. Delis, il a exposé son nom aux yeux de tout le monde en début de saison.
Mais par rapport aux performances de Van Aert et de Evenepoel, évidemment, on a presque oublié de parler des, moi je vais les appeler les gamins. Jasper Philipsen qui gagne aux Champs-Élysées. Jordi Meus et Arnaud Delis, vous venez de citer, qui sont de jeunes sprinteurs plein de talent qui vont très vite. Et Delis n'est pas qu'un sprinteur, ça a été la révélation clairement 2022, puisqu'il a exposé aussi ses capacités sur les courses d'un jour. Et c'est là qu'on l'attendra en 2023, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure dans ce qu'on peut attendre de 2023. Et surtout, il est arrivé, je veux dire, dans le cyclisme wallon qui est pauvre, hein, soyons clairs, on a un champion tous les 20 ans, est arrivé précisément l'année où Philippe Gilbert arrête et il a couru avec lui.
Il y a un symbole.
Voilà, c'est ça. Il y a une symbolique magnifique, d'autant qu'ils sont ardennais tous les deux. Plus encore pour Arnaud Delis, qui est de la province de Luxembourg, la province dite oubliée en sport, et ce n'est pas un jeu de mots de le dire. Donc voilà, c'est sûr que son avènement tombe à point nommé.
Philippe, on ne s'y attend pas forcément non plus, mais des sportifs belges ont aussi cette année brillé aux Jeux Olympiques d'hiver.
Oui, oui, absolument. On a réussi là aussi le meilleur bilan de l'histoire belge aux Olympiques d'hiver, en décrochant deux médailles, dont une d'or, hein, je l'en ai parlé là tout à l'heure avec Bart Swings, mais aussi en short track, en patinage de vitesse sur piste courte avec Anne de Smet qui a décroché une médaille de bronze. On a aussi décroché six places de top 8, des places de finalistes olympiques, ce qui est aussi un peu bizarre pour une nation qui n'était pas connue pour être une nation de sport d'hiver. Mais il faut bien reconnaître que ces dernières années, grâce surtout aux investissements venus de Flandre. On s'est découvert des sportifs de premier plan, surtout sur la glace, Bart Swings, les frères et sœurs de Smet en short track, Luna Hendricks en patinage artistique, qui a terminé 8e au jeu, mais qui a surtout terminé 2e au championnat du monde, après avoir remporté une épreuve du Grand Prix, ce qui n'était jamais arrivé pour le patinage belge, a terminé 3e de la finale du Grand Prix, et qui sera ici en janvier l'une des grandes favorites pour le titre européen.
Je me trompe peut-être, mais si on veut faire un parallèle entre les sports couverts par Philippe, les sports couverts par Stéphane, j'ai parfois l'impression que la bonne année du cyclisme, elle est due à des talents exceptionnels, qu'en athlée et en sport d'hiver, on est plus dans un aspect plus global de « il y a eu de l'investissement et on a essayé de créer des champions ». Je me trompe ou pas du tout ?
Partiellement, parce que la Belgian Cycling, la anciennement RLVB, a pris les choses en main depuis, je dirais, une quinzaine d'années dans la formation. Il y a un énorme travail en amont qui était accompli, en particulier justement dans les failles qui étaient les nôtres, par exemple, contre la montre, nous l'avons évoqué tout à l'heure, mais également en montagne. Je veux dire, il y a 15 ans d'ici, on n'avait pas un grimpeur. Aujourd'hui, la LVB déploie des efforts considérables pour pouvoir emmener les jeunes en stage très tôt, quand ils sont déjà débutants, et ça porte ses fruits. Mais il faut attendre, il faut être patient. Et en vélo, on l'a été. Et aujourd'hui, ce petit pays qui est la Belgique par rapport à d'autres est devant. Donc ça, c'est une fierté, évidemment. L'autre explication, elle est évidemment due au talent individuel. L'exemple de Van der Poel est le meilleur, puisque ce garçon-là était d'abord footballeur, et il n'y a que 5 ans qu'il fait du vélo. Donc là, il faut des dispositions naturelles, bien entendu.
Philippe ?
Oui, je crois que chez moi, c'est la même chose. C'est un mélange à la fois de talent naturel chez certains, hein, parce que, une Thiam, je ne sais pas si on en connaîtra encore une dans les 50 années qui viennent. Une athlète qui est physiquement exceptionnelle. Les Borlais aussi, il faut quand même le dire, ils sont au sommet depuis 2008. Il ne faut pas oublier, on a eu la chance, entre guillemets, d'hériter du talent venu de Somalie, d'un marathonien comme Bachir Abdi, qui cette année, il ne faut pas l'oublier, a aussi pris une médaille au championnat du monde en marathon. Et alors du côté des sports d'hiver, là, c'est clairement les investissements de la communauté flamande qui portent leurs fruits et qui permettent à des athlètes d'aller s'entraîner et vivre aux Pays-Bas où il y a des patinoires et d'y vivre comme de vrais professionnels.
Qu'est-ce que vous attendez pour 2023, Stéphane ? Ça va être compliqué de faire mieux quand même.
Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, d'abord j'attends une piste, parce que la Belgique est numéro 1 mondial et en Wallonie, nous n'avons toujours pas de vélodrome. Ça, c'est un véritable scandale quand on sait. On le voit pour l'instant, les conditions climatiques sont compliquées pour les coureurs s'entraîner sur la route. Pourtant, ils doivent le faire, puisque en Wallonie, nous n'avons pas de vélodrome. Ils sont obligés de se taper ou Gand ou Roubaix, ce qui est quand même invraisemblable quand on prend l'exemple d'Arnaud Dely. Et bien justement, donc pour 2023, voilà un exemple. On va attendre de lui. Il aura 21 ans au mois de mars. Hein. Je rappelle quand même que c'est un jeune garçon.
C'est en tout début de carrière.
Voilà. Et ce qui va être compliqué pour lui, parce que 9 victoires, 6e rang mondial après sa première année, c'est très très compliqué de faire aussi bien. Donc on va attendre de lui qu'il prenne du coffre dans des courses plus compliquées, puisque sans renier évidemment ses 9 succès, c'était 9 succès de courses en points, donc des étapes dans des courses par étapes, dont une très très belle autour de Wallonie à Rochefort, oui, devance quand même de Guirmey et des gens comme ça, donc c'est pas n'importe quoi. On va rappeler quand même que Dely a battu des grands sprinteurs comme Jakobsen, Cavendish, voilà. Mais il n'est pas que sprinteur, j'insiste beaucoup là-dessus. Il doit pouvoir nous montrer déjà un petit peu la saison prochaine ce qu'il vaut dans des grandes classiques. Quand je pense grandes classiques, je parle des classiques qui correspondent à ce qu'il peut faire, Milan-San Remo, en espérant qu'il y soit aligné, parce que ça c'est encore un point d'interrogation. Mais surtout Gent-Wevelgem, qui est vraiment la course de référence pour les sprinteurs en Flandre. Elle est l'addition de plein de choses, de pavés, de monts, de vent, de bordures. Et on devrait découvrir, c'est presque une certitude, Arnaud Dely cette année sur Paris-Roubaix. En dehors de Dely, évidemment, on va penser en premier à Remco Evenepoel, puisque lui aussi doit confirmer. C'est compliqué de faire aussi bien que dans la même année un grand tour, un titre de champion du monde et une grande classique, donc un monument. S'il parvient à faire 2 sur 3 déjà de cela, ça sera bien. Donc on va le revoir forcément déjà dans les Ardennaises, avec une confrontation qu'on attend beaucoup contre Pogacar. Le Giro, évidemment, c'est son objectif numéro 1 en 2023, qui lui permettra de confirmer s'il a les capacités de pouvoir voir briller sur une course de 3 semaines, une course de 3 semaines qui sera en plus favorable à ses compétences, puisqu'il y a 3 chronos, 70 km de contre-la-montre. Ça va faire mal aux autres surtout, mais il y a aussi énormément de montagnes quand on sait que le Tour d'Italie est le tour le plus montagneux des trois. Et puis évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais Wout van Aert, que va-t-il faire? Eh bien Wout van Aert, il est obsédé, et on peut le comprendre, par ce fameux doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, qui n'a toujours pas réussi à gagner, ni l'une ni l'autre, des beaux accès de site certes, mais il est tombé sur ou Van Der Poel ou d'autres coureurs moins attendus comme Van Baarle, qui sont venus par équipe interposée interrompre ses dessins. Donc là, Van Aert, vraiment, ses objectifs dans l'immédiat, c'est au mois d'avril. Après, on verra s'il choisira ou Giro ou Tour, ou s'il fera les deux, ça nous ne savons pas encore. Autre chose qui lui manque tout de même, c'est le titre mondial. Et en 2023, il est bon de le préciser, pour la première fois, nous aurons des championnats du monde regroupés au mois d'août avec toutes les compétitions du vélo en Écosse. Ça risque d'être très très intéressant pour les spectateurs.
Philippe, en 2023, il y a évidemment l'inconnu, Nafitiam peut-être, jusqu'où peut-elle aller, qu'est-ce qu'elle va encore avoir envie de faire après avoir tout gagné et après avoir changé d'entraîneur.
Oui, c'est surtout ça qui sera intéressant de voir, c'est comment Nafitiam va digérer son changement d'entraîneur. On sait qu'elle a décidé de quitter Roger L'Espagnère après 14 ans de bons et loyaux services pour aller s'entraîner avec Michael van der Platsen, qui n'est autre que le frère de Thomas. Elle est partie pour une bonne partie de l'année maintenant en Afrique du Sud pour préparer sa saison. On verra si elle fera l'indoor, c'est une possibilité. On verra ce qu'elle est capable de faire dès cet hiver. L'objectif principal de l'année, ce seront les mondiaux cet été à Budapest où elle essaiera d'aller chercher un troisième titre mondial, ce qui serait absolument incroyable une fois de plus. À part elle, on va voir aussi comment les Tornados continuent sur leur lancée, puisque les deux jumeaux Borlée viennent d'annoncer qu'ils continuent jusqu'aux Jeux de Paris. Mais bon, derrière eux, il y a quand même leur frère Dylan, qui reste sur la meilleure saison de sa carrière en 2022 aussi, il faut le préciser. Il y a Julia Watrin qui a fait une excellente saison aussi en battant des records de Belgique individuels sur 400 mètres en indoor et sur 400 mètres en plein air, qui voilà, arrive vraiment à maturité. On espère enfin que Jonathan Saccour va justifier tous les espoirs qu'on a en lui depuis son titre mondial junior en 2018. Donc il y a quand même des espoirs pour les Tornados, mais aussi pour les Cheetahs, du côté féminin, qui ont également réussi une très bonne saison, même si elles n'ont pas décroché de médaille, mais avec des circonstances un peu difficiles, puisque Cynthia Bolingo a été blessée longtemps, mais très très bien revenue, et elle aussi, on se demande ce dont elle est capable au niveau mondial. On va voir si elle peut décrocher une finale sur 400 mètres au championnat du monde. À côté de ça, voilà, il y a aussi la suite de la carrière de Nurwitz, qui s'est révélée cette année aussi en devenant championne du monde en salle, après avoir été quatrième aux Jeux Olympiques. Et Bachir Abdi, qui ne fera pas de grand championnat cette année, il l'a annoncé, il ne fera pas le championnat du monde de Budapest, mais qui va tenter de battre son propre record d'Europe à la mi-avril à Rotterdam, ce dont je crois il est tout à fait capable si les conditions climatiques lui sont favorables.
Pour terminer, un nom, un sportif, une sportive peut-être qui est un peu passé sous le radar et qu'il faudrait suivre avec attention.
Il est sur le devant de la scène depuis quelques années maintenant, mais on a souvent tendance à l'oublier. Moi, je reste plein d'admiration pour le judoka Mathias Kass, qui cette année a décroché 2 médailles d'argent au championnat d'Europe et au championnat du monde. Il est numéro 2 mondial dans la catégorie de poids la plus difficile selon moi, les moins de 81 kilos, et qui est en train de se tailler un palmarès assez incroyable qui pourrait faire de lui le judoka numéro 1 belge de l'histoire, de dépasser un jour le palmarès de Robert Van de Waal, dont il n'est plus très loin. Il a une médaille olympique, il a 3 médailles mondiales, il a 4 médailles européennes et il n'a toujours que 25. Donc, ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu comment il va évoluer. Il y aura aussi, en 2023 pour lui, et des championnats d'Europe et des championnats du monde, plus un nombre incalculable de grands chelems. Donc, beaucoup d'occasions de se mettre en évidence. C'est un judoka à suivre, un homme à suivre, et qui sera l'un des grands favoris aux Jeux Olympiques dans 2 ans.
C'était Stéphane, il faut déjà apprendre à écrire correctement le nom de Ken Uytebroeks.
Oui, parce que le Tour de l'Avenir, c'est une course de référence dans le cyclisme mondial, parce qu'il y a tout est réuni dans cette course-là. Elle se court en équipe nationale par-dessus le marché, donc c'est encore plus compliqué. Donc voilà, là, on va attendre de ce Anultois parfait bilingue, contrairement à ce que son nom pourrait le laisser supposer, il parle aussi bien le français que le néerlandais. Et on attend de lui des performances dans les courses par étape, parce que ça semble clairement être sa spécialité. On va le voir déjà au mois de mars autour de Catalogne, puis il enchaînera avec le Critérium du Dauphiné. Et si ça se passe bien au Dauphiné, il n'ira pas au Tour de France, hein, je vous rassure tout de suite quand même, mais au Tour d'Espagne. Donc il ferait son premier grand tour déjà en 2023. Sur les classiques, là, nous n'avons pas trop de références par rapport à ce qu'il sait faire. Il est aussi un coureur d'instinct à partir de loin, et c'est comme ça qu'il a gagné le Tour de l'Avenir. Est-ce qu'il pourra le faire dans un
chez
tour de Catalogne, voilà, avec des coureurs qui viennent préparer les classiques ardennaises, ça c'est une autre paire de manches. Mais justement, comme d'Arnaud Delis, il va devoir monter d'un cran dans cette progression et son apprentissage et prendre du volume.
Merci beaucoup Philippe.
Avec plaisir.
Merci Stéphane.
Je vous en prie.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.